Le dévoilement de Dieu numéro 158. La même colonne de feu révèle. 4 juin 2020. Pasteur Brian Kozurek. Ce matin, nous lirons là où nous nous sommes arrêtés dans l'étude de la prédication de frère Branham. Le dévoilement de Dieu, et ce sera le numéro 158 de notre étude. Notre attention se portera sur la déclaration faite par frère Branham. La même colonne de feu qui a été envoyée à Moïse et à Paul, lesquels ont écrit la Bible, est maintenant envoyée pour la révéler. Ensuite, frère Branham nous fait savoir que, quoique Dieu utilise des prophètes pour révéler sa parole, il continue à manifester cette parole à travers les vies des fils et des filles élus. Il déclare, il est mort pour se révéler à nous. Maintenant, mourons nous-mêmes pour le révéler aux autres. Mourons aux traditions et tout, pour le révéler aux autres. Ainsi, pour continuer cette étude, commençons par lire cet après-midi, au paragraphe 151. Remarquez, la même colonne de feu qui a été envoyée à Moïse et à Paul, lesquels ont écrit la Bible, est maintenant envoyée pour la révéler. La grâce de Dieu, le Dieu immuable, qui accomplit les promesses de Matthieu 28, voici, je suis avec vous toujours, qui accomplit Jean 14.12, vous ferez aussi les œuvres que je fais, qui accomplit Luc 17.28-29, dans les derniers jours, le Fils de l'homme sera révélé, voyez, Malachi 4, voici, je vous envoie Élie, le prophète, il ramènera la foi des gens à la parole originelle. Voyez, de quelle façon, voyez, oh, là là. Maintenant, c'était une bouchée, ce que frère Branham disait ici. Il cite les trois fois que Dieu descend pour montrer sa présence, et apparaît dans la colonne de feu. Trois fois, il choisit un homme, pour être son porte-parole. Les deux premiers pour écrire la parole. Et le dernier pour révéler la parole. Maintenant, nous savons que selon la doctrine, qu'il y a trois exodes, qui se sont déroulés dans l'histoire de la Bible. Et tous les trois, ont trois choses en commun. 1. Dieu entre en scène, et se montre dans une colonne de feu. 2. Dieu un homme sur la scène, pour saisir la révélation de Dieu et la donner au peuple. 3. Le peuple de Dieu, reçoivent le ministère de cette colonne de feu et ainsi, ils reçoivent la révélation de Christ, pour cette saison et ils entrent dans la promesse de ce jour-là. Dans ce premier exode, nous avons vu la présence de Dieu, venir sur la scène dans la forme de la colonne de feu, qui est descendue d'une manière surnaturelle, un buisson ardent. Cela attira l'attention d'une personne, Moïse et donna à cette personne, le message à apporter au peuple. Et Dieu dans cette colonne de feu, a utilisé cet homme, qu'il avait choisi pour écrire ses paroles et les donner aux gens et ainsi, il s'attendait à ce que les gens puissent écouter, ensuite reconnaître et enfin agir sur base de la parole qui leur a été donnée. Ce qui signifie que Dieu attend de ceux qui écoutent le prophète, qu'ils vivent la parole qui est là, pour manifester cette parole, qui leur est donnée. Ceux qui vivaient cette parole, sont entrés dans la promesse pour cet âge. Ceux qui ont refusé d'écouter, de reconnaître et d'agir d'après la parole de Dieu, ont péri dans le désert. Ce même modèle, demeure vrai, pour tous les trois exodes. Ainsi, dans le deuxième exode, nous avons vu Dieu, une fois de plus, apparaître à un autre homme, cette fois, Saul, qui plus tard, changera son nom et deviendra l'apôtre Paul. Dieu a utilisé la même colonne de feu, comme son manteau et il voudrait une fois de plus, choisir un homme pour écouter son message et l'apporter au peuple. Cette fois-là, C'était l'apôtre Paul qui écrivit la révélation de Jésus-Christ pour les gens pour qu'une fois de plus, ils vivent par elle. Et encore dans le deuxième Exode, nous avons vu que ceux qui vivaient cette parole exprimaient une vie de puissance et d'influence dans le Saint-Esprit. Et une fois de plus, nous verrions Dieu manifester sa parole et sa puissance par ce temps, l'Église primitive utilisant des signes et des prodiges pour valider sa présence parmi eux. Ceux qui refusèrent sont entrés dans le légalisme et le nicolaïsme. Alors, frère Branham nous fait connaître que cette même colonne de feu, Esther une fois de plus, apparut sur scène en cette dernière heure et nous a fait savoir que Dieu a choisi un homme pour révéler sa parole, qu'il a écrite en utilisant Moïse et Paul. Maintenant, comme frère Branham le déclare, ce n'est pas assez pour que cette parole soit révélée, mais pour le faire, nous devons mourir en nous-mêmes, afin que la parole que Dieu a donnée qui est descendue pour révéler, puisse être révélée à travers le peuple de Dieu. 152 Il est mort pour se révéler à nous. Maintenant, mourons à nous-mêmes pour le révéler aux autres. Mourons aux traditions, et tout, pour le révéler à l'autre. Mourons aux dénominations pour le révéler aux autres. Ainsi, nous voyons que nous sommes des instruments de Dieu, des vases de Dieu pour être manifestés, comme fils de Dieu, mais il dit, vous n'aimez pouvez le faire que, si vous mourrez premièrement à vous-même, et deuxièmement, à vos traditions, et troisièmement, à toute influence dénominationnelle. Maintenant, nous savons que ceci est l'âge, où les fils de Dieu, doivent être manifestés. Esther Romains 8. Mais vous n'y comprendrez jamais ce que cela signifie qu'être manifesté comme fils de Dieu jusqu'à ce que vous compreniez comment vous pouvez y arriver. Paul nous parle dans Romains 8, 19-23. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Laissez-moi lire dans le NIF, pour plus de clarté, aussi la création attend-elle dans une expectative plus enthousiaste que les enfants de Dieu soient révélés. Car la création était soumise à la frustration, non de son propre choix, mais à cause de celui qui l'y a soumise, dans l'espoir qu'elle se libérera de sa servitude de corruption, et être amenée à la liberté de la gloire, doxa, des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière a vécu dans des soupirs, comme dans les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, ce qui signifie, nous, qui possédons le baptême du Saint-Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant avec un grand enthousiasme, l'adoption et la filiation, qui sera consommée par la rédemption de nos corps. Toute chose de la nature, pointe au temps où notre filiation sera couronnée, quand nous recevons nos corps glorifiés. Mais avant ce moment, nous sommes dans le processus de la filiation et sommes manifestés de plus en plus dans notre filiation. Mais, cela commence par notre volonté de mourir en soi-même. Ainsi, pour comprendre Romains 8, 19 et comment nous devons être manifestés comme fils, avant de recevoir notre couronnement, Nous devons entrer dans Romains 8, 1 et lire tout, jusqu'au verset 19. Pour voir cette progression de la croissance jusqu'à la filiation, car, souvenez-vous, le mot grec pour un fils en pleine maturité, prêt pour l'adoption, c'est ester teleio. Et pourtant, quand nous sommes nés, nous sommes fils, mais juste des bébés dans la famille de Dieu, et devons grandir en lui en toutes choses. Romains 8, 1-2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En d'autres termes, quand vous êtes né dans la chair, il y a certaines lois de la nature qui contrôlent la chair, c'est-à-dire, le moi. Mais quand vous êtes né d'en haut, la loi de l'Esprit de la vie en Christ Jésus prend le dessus et vous êtes maintenant gouverné et contrôlé par l'Esprit de Dieu. La partie de sa présence et nature divine règne dans votre corps. Ensuite Paul nous montre comment la loi Néhémie pouvait rien faire pour nous avant que nous n'ayons la vie, la nature et l'esprit divin en nous pour contrôler nos vies. Car nous Néhémie pouvions utiliser l'intellect et la discipline physique pour nous contrôler, ce qui n'estère pas assez. 3-7. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est ester la mort, être focalisé sur soi-même et son corps, c'est ester la mort, tandis que l'affection de l'esprit, or être focalisé sur les choses de l'esprit, c'est ester la vie et la paix, car l'affection de la chair, la pensée égocentrique, ester inimité contre Dieu, parce qu'elle n'aimait ce son mais pas à la loi de Dieu, et qu'elle n'aimait le peut même pas. En d'autres termes, si votre attention est focalisée entièrement sur vous-même, comment serez-vous attentionné aux choses sur lesquelles Dieu veut que vous vous focalisiez? Les choses de l'esprit. Ainsi, dans cette condition, vous êtes un ennemi de Dieu. 8. Or ceux qui vivent selon la chair, en d'autres termes, ceux qui se focalisent sur eux-mêmes, Néhémie saurait plaire à Dieu. La manière de plaire à Dieu, c'est ester à travers l'humilité et l'obéissance à sa parole et l'esprit. Mais pouvez-vous jamais faire cela aussi longtemps que vous êtes absorbé par votre propre personne égocentrique? 9. Pour vous, vous Néhémie vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. En d'autres termes, vous Néhémie vivez pas dans la chair, mais plutôt vous vivez dans l'Esprit, en supposant, bien sûr, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il Néhémie lui appartient pas. La vérité est que quiconque n'a pas l'Esprit de la vie oint en lui, n'appartient même pas à Dieu. 10. Si Christ ester en vous le corps, il ester vrai, ester mort à cause du péché, mais l'esprit ester vie à cause de la justice. Si l'on ester vivant en vous, quoique votre corps soit comme mort, à cause des effets du péché, pourtant, l'esprit vous infuse la vie Dieu, maintenant, vous êtes correctement, juste avec Dieu. 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, vie et ester vivant au-dedans de vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. 12. Y aurait-ce ainsi donc, frères, nous n'y sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et comment l'Esprit de Dieu, vivant en vous, rend-il témoignage à votre esprit? Parce que les choses que vous faites, n'elles viennent pas de vous, mais vous le faites, parce que c'est sa nature en vous. Produisons le vouloir et le faire, pour son bon plaisir. C'est-à-dire ce que Paul voulait dire par son esprit, l'esprit de Dieu, rendant témoignage à votre esprit. C'est-à-dire une corroboration articulaire entre son esprit et le vôtre. Votre vie et ses attributs, ce qu'est-à-dire votre esprit, sont dans une corroboration articulaire avec l'esprit de Dieu, qui vit en vous. C'est-à-dire ce que Paul disait dans Galates 2, j'ai été, moi, Paul, ma vie. Crucifié avec Christ, je suis mort en moi-même, moi, Paul, suis mort à Paul, et si je vis, ce n'est plus moi, Paul, je, Paul qui vit, ce n'est plus moi qui vis, pourtant, ce n'est pas moi, Paul, en réalité, qui vit, c'est Christ qui vit en moi, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, sa foi, sa révélation, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 153 Remarqué, le vieux temple renfermait la gloire de la Shekhinah, et la lumière de la Shekhinah était sur la parole. La parole est une semence, elle a produit les pains de proposition, destinés uniquement aux croyants. Le sang aussi était sur l'alliance. Et le sang, c'est l'eau qui donne la vie au grain, au blé, à la semence, qui est la parole. 305 Comme Jésus l'a dit, de même que Moïse éleva le serpent d'airain, et il a aussi dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, quiconque croit en lui n'est mis périra point. Moïse a frappé le rocher dans le désert, pour sauver un peuple qui périssait, ou pour faire jaillir l'eau. Dieu a frappé Jésus pour faire jaillir de lui l'esprit, pour un peuple qui périssait. Le sang Esther sortit de lui, c'est-à-dire à dire l'eau de la purification par la parole. Et l'eau donne la vie à la semence. Et c'est-à-dire ce qui a fait jaillir la gloire de la Shekhinah, laquelle a brillé sur la parole, ce qui a produit les pains de proposition. Et les pains de proposition, c'était seulement pour un peuple choisi. Oui. Est-ce vrai? Et ce message n'a pas de signification pour tous. Ce n'est pas tous qui comprendront, parce que tous n'ont pas l'Esprit de Dieu vivant en eux, qui fera qu'ils comprennent. C'est 1 Corinthiens 2. Nul ennemi peut comprendre les choses de Dieu, excepté par l'Esprit de Dieu en lui. 154 Maintenant, en allant derrière le voile, de l'autre côté du voile, dans sa présence, où se trouve la parole, pas le credo, la parole, là, de voir la gloire de la Shekhinah, la puissance, le Saint-Esprit brillant sur la parole, produisant la promesse, c'est-à-dire ce qui indique que vous êtes derrière le voile. Amen. J'ai franchi les voiles déchirés, là où la gloire est intarissable. Hectomètre. Alléluia. Alléluia. Je vis dans la présence du roi. J'ai franchi les voiles déchirés, là où la gloire est intarissable. Je vis dans la présence du roi. Ainsi, qu'est-ce ce que frère Branham dit ici? Il nous dit que l'évidence, selon laquelle vous vivez dans la présence de la parole, dans la présence du roi de gloire, s'espère que sa présence de la Shekhinah oindra cette gloire pour se manifester dans votre vie. Lisons encore. 154 Maintenant, en allant derrière le voile, de l'autre côté du voile, dans sa présence, où se trouve la parole, pas le credo, la parole, là, de voir la gloire de la Shekhinah. La Shekhinah, la puissance, le Saint-Esprit brillant sur la parole, produisant la promesse, s'estère ce qui indique que vous êtes derrière le voile. Regardez, il y a beaucoup de gens qui intellectuellement peuvent vous dire que Dieu est descendu en 7 heures. Cela ne me demande pas d'être un scientifique de la fusée pour le comprendre. Et toute personne qui peut lire, s'ils ont un cœur honnête, peuvent vous dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il a un fils. Mais s'estère aussi loin que l'intellect peut vous amener. Et s'estère la doctrine. S'estère seulement un outil pour vous aider à être manifesté comme un fils de Dieu, parce que vous voyez que la relation entre le Père et le Fils est le Fils, est-elle pareille. Mes frères Branham, nous dit ici que, si vous avez véritablement passé derrière le voile, à travers le voile, dans la présence de Dieu, alors, son Saint-Esprit brillant sur cette parole, apportera la promesse, et cela vous montre que vous êtes derrière le voile. C'est-à-dire pourquoi, la manifestation des fils de Dieu, c'est-à-dire crucial pour toute la création. Parce cela montre que vous êtes entré derrière le voile et la manifestation de la révélation, Esther vivante et vit elle-même, en vous. Comme Paul dit, c'est Esther Christ qui vit en moi et c'est Esther l'évidence que vous êtes allé derrière le voile. Ce n'est pas le credo. Ce n'est pas la doctrine. Ce n'est pas la mécanique. C'est Esther la dynamique. Christ. Lui-même, qui fait vivre la doctrine, en vous. Ce n'est pas la doctrine, reçue intellectuellement, c'est la projection de la doctrine elle-même, projetant sa vie, à travers vous, et l'Esprit rend témoignage à votre esprit, que vous êtes un fils, car il vit en vous. 155 La vieille peau de blaireau. Les dénominations, a été déchiré. J'ai pénétré de l'autre côté, dans la gloire de la Shekhinah, et je vois la parole. Je vois la colonne de feu qui se déplace. Je vois la parole manifestée. Je vois se développer ce qu'il avait dit qu'il ferait en ces derniers jours. Je vois les enfants qui mangent ce pain de la Shekhinah produit par le mûrissement de cette parole. Qui croit? Amen. Quelle heure merveilleuse dans laquelle nous vivons. Voyez-vous, la Shekhinah se tenait au-dessus de la parole, et en dessous, il y avait le pain. Et il y avait le sang, aspergé, ce qui lui donne l'eau. L'Esprit donne la vie à la parole. Et, combien ont entendu la bande sur le procès? Beaucoup d'entre vous, je pense. Vous voyez? Là, il faut. Cette parole doit se développer. Pour pouvoir se développer, elle doit être dans la bonne sorte de terre. Voyez? Et, lorsque Dieu fait une promesse, et cette dernière touche le cœur, l'ennemi ne peut pas faillir. Regardez à toutes ces actions dont frère Branham fait allusion ici. Je vois la parole, je vois la colonne de feu qui se déplace, je vois la parole manifestée, je vois cela se développer, le mûrissement de cette parole, l'esprit donne vie à la parole, cette parole doit se développer, elle doit être dans la bonne sorte de terre, Dieu fait une promesse, cette dernière touche le cœur, regardez, Jésus, lui-même dit, la lettre tu mets l'esprit vivifie, il n'est pas question de comprendre la doctrine, intellectuellement, cessèrent comprendre la doctrine par expérience. Dans sa prédication, Christ Esther le mystère de Dieu révélé 28 juillet 1963 p. 120. Frère Branham dit, regardez, Christ en vous. Fait de lui, le centre de la vie de la révélation. Voyez, la vie de Christ en vous. Fait de lui, le centre de la révélation. Christ dans la Bible. Fait de la Bible, une révélation complète de Christ. Christ en vous. Fait de vous, la révélation complète de la chose entière. Et quelle est Esther la définition du dictionnaire de la révélation? C'est Esther la manifestation de la vérité divine. C'est Esther ce qu'Esther la révélation? Révélation signifie divulguer au moyen du dévoilement ou de la manifestation. Cela n'a rien à voir avec une connaissance intellectuelle, mais cela se rapporte à une connaissance intellectuelle. Et frère Branham dit, Christ en vous, fait de vous, la révélation complète de la chose entière. Et qu'Esther, ce Christ, en vous, Christ Esther l'onction. Ainsi, l'onction en vous, fait de vous, la révélation ou la manifestation complète de la chose entière. Voyez, vous, ce que Dieu essaie de faire? Qu'est-ce que la nouvelle naissance alors? Vous dites, bien, frère Branham, qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est-ce la révélation personnelle de Jésus-Christ à vous. Et souvenez-vous, si la révélation est la manifestation de la vérité divine, alors, il nous dit que, la nouvelle naissance, Esther la manifestation personnelle de Jésus-Christ à vous. Là, vous continuez. Et vous qui l'a vivifié et vous a rendu vivant, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le tout se rapporte à Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le faire. Car si Dieu n'est mis le fait pas en vous, cela n'est mis pourra pas non plus se faire en vous. Et la foi est la révélation du Fils de Dieu, par laquelle Paul vécut, Esther la même celle dont Jésus dit le Fils n'est mis peut rien faire de lui-même, mais ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement, et ainsi, si le Fils de Dieu n'avait jamais vu Dieu faire, alors il n'aurait jamais fait. Ainsi, la clé n'est-elle pas dans le fait de faire, mais la clé pour faire, c'est-elle de voir Dieu faire. Hébreux 9, 23. Vous devez regarder et vivre. Vous regardez et il vit, alors vous vivez. Frère Branham continue. Amen. Voyez, non pas se joindre à une église, se serrer la main, vous faites quelque chose de différent, vous avez récité un credo, vous avez promis de vivre par un code des règles, mais Christ, la Bible, il est la parole qui vous a été révélée. Et qu'importe ce que quiconque dit, ce qui se passe, c'est Christ. Pasteur, prêtre, qu'importe qui pourrait-il être, c'est Esther Christ en vous. C'est Esther la révélation sur laquelle l'Église Esther bâtit. Vous voyez, non pas la connaissance au sujet de Christ, mais Christ en vous, Christ vivant en vous, et vous êtes vivant pour Christ, c'est Esther ce qui fait de lui le centre de votre vie. Si vous dites que vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, alors votre vie vivra de la même manière que Jésus vécut. Si vous dites que vous êtes né de nouveau, alors la vie qui guidait et dirigeait Jésus-Christ à la croix vivra en vous et vous guidera, vous dirigera vers une vie de crucifixion de soi. Vous direz ce qu'il a dit, et ferez ce qu'il a fait, Et vos actions seront les mêmes et vos paroles seront les mêmes. Car c'est la même vie qui était en lui, qui se trouve en vous. Non pas que vous-même qui mettez ou essayez de dire, ou agir, ou faire ce qu'il fit. Non, si son esprit est vivant et vit en vous, ce sera si naturel que, vous n'y penserez même pas, le faire. Vous le ferez automatiquement. Vous parlerez simplement. Vous agirez simplement comme lui, car c'est lui en vous, le faisant, et le disant, et agissant. Et à moins que les gens n'aient mis voix cette vie en vous, faire ce qu'il a fait, et dire ce qu'il a dit, et penser les mêmes pensées, et faire les mêmes œuvres, vous n'avez aucun droit de prétendre que vous êtes né de nouveau. Jésus a dit, si vous n'aimez me croyez pas, croyez aux œuvres, car c'est elles qui rendent témoignage de qui je suis. Et dans le premier âge de l'Église, les gens étaient appelés chrétiens, parce qu'ils étaient semblables à Christ. Ils marchaient comme Christ, ils parlaient comme Christ. Ils ont tellement accompli la nature de Christ, car la nature de Christ vivait en eux. Ainsi, quel droit a une église, ou un individu aujourd'hui, de s'appeler chrétien, s'il n'a émis son pas conforme à l'image du Fils premier-né, Christ Jésus. Frère Branham dit dans sa prédication, l'aveugle Bartimée 18 août 1955 p. 14. Ces pharisiens lisaient la même Bible que les apôtres, mais n'avaient pas de foi pour mettre en pratique ce qu'ils lisaient. Chaque dénomination, aujourd'hui, lit la même Bible. Mais ce que je veux voir, c'est quelqu'un qui a assez de foi, qui s'avancera et prendra ses paroles. Amen. C'est ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un pour mettre en pratique ce qu'il croit. La foi sans les œuvres est morte. Ça ne vous sert à rien d'avoir la foi. Vous dites, je crois que ceci est la Bible. Eh bien, si c'est la Bible, elle a des promesses. Et si vous croyez qu'elle est vraie, eh bien, la seule chose que vous devez faire, c'est de mettre votre foi en action là-dessus. Pratiquez ce que vous croyez. Chaque petite portion est une semence. Le problème aujourd'hui, est que les gens ont une foi intellectuelle, au lieu de la foi du Saint-Esprit, qui a été vivifiée en eux. Frère Branham dit dans Christ Esther le mystère de Dieu révélé 28 juillet 1963 p. 147. Il n'est pas connu par la manière de l'expliquer. Dieu se fait connaître dans la simplicité de la révélation de Jésus-Christ à la personne la plus illettrée. Voyez-vous? Pas votre théologie. C'est la révélation de Jésus-Christ. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Aucun autre rocher n'est accepté, rien d'autre n'est accepté, pas un autre rocher romain, pas un autre rocher protestant, pas d'autres écoles, ni rien d'autre, mais exactement sur la révélation de Jésus-Christ à travers la nouvelle naissance. C'est là-dedans qu'il naît, et qu'il injecte sa propre vie, et votre vie disparaît. Et la vie de Christ jaillit elle-même de vous. Ayant la prééminence, vers les gens pour qu'ils voient cette véritable vie, accompagnée des œuvres, des signes et des prodiges qu'il fit, il fait la même chose au travers de vous. En dehors de cela, les autres choses n'émises sont même pas mentionnées du tout. Christ Esther le mystère de Dieu révélé 28 juillet 1963 p. 133. Et si un homme dit qu'il est né de nouveau et qu'il essaie de renvoyer ses promesses de Christ pour ses derniers jours à un autre âge, faisant de lui le Christ d'hier mais non pas d'aujourd'hui, alors cet homme ou cette personne a été séduite par Satan. Et si cet homme dit qu'il croit cela, mais que la chose n'est mise ou manifeste pas en lui. 238 Jésus a dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, dans le monde entier et dans chaque âge. Chassez les démons, parlez en langue, et à toutes ces grandes manifestations des dons qui suivraient, disant, ils accompagneront. Non pas ils peuvent, ils devraient, ils accompagneront. Et les cieux et la terre passeront, mais sa parole n'y passera pas. Beaucoup de chrétiens vivent sur l'expérience de quelqu'un d'autre et non les leurs. Ils vivent d'après l'expérience de leurs parents ou de leurs pasteurs ou enseignants ou leurs prophètes. Mais vous devez avoir votre propre expérience avec le Dieu vivant, faisant de votre vie une marche quotidienne dans la réalité de la parole vivante. Frère Branham dit dans sa prédication, pourquoi la petite Bethléem, 14 décembre 1963 p. 52. Oh! Remarquez, Israël recevait chaque soir un nouveau pain frais, qui tombait du ciel, pour leur voyage. Christ est notre vie, le pain de vie, et chaque jour nous recevons de Christ, du ciel, une fraîcheur, le Saint-Esprit qui descend à nouveau, chaque jour, sur les croyants. 81 L'expérience d'hier. Beaucoup d'entre nous vivent de l'expérience d'hier. Nous n'y devons pas faire cela. Il s'agit de l'expérience d'aujourd'hui. Voilà le problème qu'ont nos dénominations. Elles vivent de l'expérience de John Wesley, de l'expérience de Dwight Moody, de Finney, de Sankey, de Knox, de Calvin, de beaucoup de ces gens d'autrefois. Les gens vivent de cette expérience-là. Mais, souvenez-vous, le pain qui est tombé, les gens ont essayé de le garder, il se contaminait, c'était infesté d'asticots, de petits vers. Et c'est là le problème aujourd'hui, ce sont des citernes contaminées, d'un vieux pain qui est contaminé. Ainsi, que dit-il? Il dit que vous, Néhémie, pouvez pas placer tout cela sur une seule personne. Vous devez par vous-même avoir la même expérience que ces hommes ont eu. Vous n'irez jamais dans l'enlèvement, à moins que vous n'ayez le Saint-Esprit vivant sa vie en vous. Beaucoup des gens pensent que croire ce message est leur évidence, qu'ils sont nés de nouveau, et beaucoup des prédicateurs prêchent cela aussi. Et ainsi, ils enseignent à leurs enfants qu'ils n'ont pas besoin d'avoir leur propre expérience avec Dieu, parce que croire le message, c'est l'évidence qu'ils sont remplis du Saint-Esprit de Dieu. Néhémie, savez-vous pas que le diable croit et qu'il tremble? C'est si loin de la vérité. Quand frère Branham et frère Vell parlaient sur l'évidence de la nouvelle naissance, et que frère Vell avait apporté deux expériences que frère Branham avait parlé, qui lui répondit, « Nous n'y allons pas par expérience, nous y allons par la parole de Dieu. » Et pourtant il a tourné autour sur la bande et quand on lui avait demandé si c'était suffisant de croire le message, écoutez sa réponse. Question et réponse COD 30 août 1964 MP 120 354. Est-ce ce que les enfants doivent avoir une expérience pour avoir le Saint-Esprit? Si le ciel s'il voit le message du temps de la fin, ont-ils le Saint-Esprit? Maintenant, c'est une très bonne question, et écoutez sa réponse après que le livre des âges de l'Église soit écrit. Chacun doit avoir une expérience. Vos enfants Néhémie peuvent pas entrer d'une manière autre que celle dont vous êtes entrés. Voyez-vous? Il faut qu'ils naissent de nouveau. Il n'y a pas de petits-fils dans le royaume de Dieu, ce sont tous des enfants. Ils doivent avoir une expérience avec Dieu pour entrer, tout comme vous. Maintenant, j'espère que je peux prendre celle-ci. Maintenant, quand frère Branham et frère Vell discutaient, l'évidence était contraire à l'expérience. Ce sont deux mots différents et ils ont deux significations différentes. Ils parlaient de l'évidence, d'être rempli de l'esprit. Il n'est mis par les pas de l'expérience, parce que chaque naissance est une expérience différente. L'expérience et l'évidence sont deux mots différents et ils signifient deux choses différentes. Le mot expérience signifie une participation active dans des événements ou activités, conduisant à une accumulation de la connaissance. Un événement ou une série d'événements, dans lesquels on aurait pris part ou à travers lesquels on soit passé. Tandis que le mot évidence signifie une chose ou des choses, qui aide à la formulation d'une conclusion ou un jugement, indiqué clairement ou prouvé. Le mot évidence vient de la racine évide, qui signifie facilement vu ou compris, évident. Ainsi, l'évidence de recevoir le Saint-Esprit serait quelque chose qu'il a voir, une preuve. Et elle n'y a pas de preuve plus grande que d'entendre et de reconnaître et d'agir d'après. Ce qui signifie que vous comprenez la parole de Dieu pour le jour dans lequel vous vivez. Je vous ai montré cet après-midi que cela n'implique pas une compréhension mentale. Cela implique une connaissance basée sur l'expérimentation de la réalité du Dieu vivant et ce que sa parole dit de lui. Comme Paul dit, comment pouvez-vous connaître les choses de Dieu si l'Esprit de Dieu n'est-il en vous? Ainsi, l'évidence n'est-elle pas l'expérience, mais c'est-elle ce qui en regarde en arrière, avec des preuves, que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, parce que vous avez sa pensée en vous. Mais cela n'a rien à voir avec le fait qu'il y a une expérience dans une nouvelle naissance, et c'est-elle ce que frère Branham dit au sujet des enfants qui grandissent dans le message. Il a dit qu'ils doivent avoir une expérience comme vous en aviez eu, parce que Dieu a des enfants, de petits-enfants. Prions. Ce sermon a été traduit en langue française par le frère Bill Venga, billvenga@yahoo.fr. C'est Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA.